Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est vendredi, on est en direct jusqu'à 20h55 avec Marion, Mathieu, Patrick. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir, salut Babette.
Et bien sûr avec Pierre et Mohamed qui sont toujours à Cannes. Salut à tous les deux.
Toujours sur la croisette, Babette, c'est la projection hors compétition d'un film d'animation. C'est l'un des seuls de cette sélection, Le Petit Nicolas. Tout ce monde merveilleux pour les grands et les petits. On en parle tout à l'heure avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, mais qui a joué un rôle clé dans tout cela en prêtant sa voix. Quelqu'un que j'aime beaucoup. D'ailleurs, quand on le rencontre, on l'aime. Je ne vous ai pas donné son nom. On a rendez-vous avec Alain Chabat.
Cette 75e édition du Festival de Cannes est marquée par une actualité forte, la guerre en Ukraine depuis l'invasion russe. Des centaines de journalistes ont fui la Russie, des personnalités d'opposition et du monde de la culture se sont exilés. Certains sont à Cannes et j'ai eu la chance de les rencontrer.
Voilà pour le menu de cette page cannoise, on l'ouvre dès 20h. Marion, d'ici là, votre choix de l'actu du jour.
Ils sont égoïstes, individualistes, ils ont ruiné la France et pillé toutes nos ressources. Qui ? Les boomers, et c'est un boomer qui le dit, François de Closet.
Ah non, il n'est pas boomer.
Il est... Alors justement, il va nous expliquer la distinction entre boomer senior et boomer junior.
Ah, boomers,
voilà. La
guerre,
parenthèse boomer, François de Closet, les étrilles. Il sera dans un instant sur notre plateau. Patrick, votre édito ne serait-il pas consacré au gouvernement ?
Voilà, c'est le gouvernement. Enfin, je vais faire un peu, je vais essayer de faire un peu mieux que la liste simplement des 27 qui ont été nommés cet après-midi.
S'il vous plaît.
Je vais en donner quelques grandes lignes et quelques commentaires.
Voilà ce nouveau gouvernement qu'on commente avec notre éditorialiste politique préféré, Alain Duhamel, qu'on a shippé à BFM. On est ravis ce soir de vous accueillir, cher Alain. Merci, shippé temporairement, bien sûr. Merci d'avoir accepté ce soir.
Merci.
Notre invitation, votre analyse précieuse dans un instant. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Rien à voir avec la politique, quoique Monkeypox, cette variole du singe qui apparaît, en tout cas sur les écrans des chaînes info ces dernières heures, ces derniers jours. On va en parler et sans doute un peu se rassurer.
Ah bah c'est une bonne nouvelle ça, merci beaucoup.
Non, non, toujours, hein.
Cher Mathieu, nos invités du dîner, c'est une bande complètement zinzin, absolument délirante, désopilante. Ils sont à l'affiche de la nouvelle parodie d'émission télé, une parodie de Koh-Lanta qui s'appelle Le Flambeau. Jonathan Cohen, Géraldine Nakache, Gérard Darmon, Jonathan Lambert nous expliquent exactement quel genre d'aventuriers ils sont dans cette émission télé totalement folle. Ils sont nos invités du dîner préparé par quelqu'un qui fait tout sauf de la parodie de cuisine. Boris Campanella, chef étoilé du restaurant L'Écrin à l'hôtel du Crillon, de Crillon à Paris. Bonsoir cher Boris.
Bonsoir Babette, bonsoir
J'ai
à tous.
J'ai adoré les pois chiches hier.
Merci beaucoup.
Et ce soir c'est du homard.
Ce soir, c'est fruits rouges, fruits noirs, gingembre confit, citron, mélisse et un petit peu de homard.
Ah un petit peu de homard. Merci, chef. À
Merci
tout
beaucoup.
À l'heure. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. Le gouvernement Elisabeth Borne est donc désormais connu, avec plus de continuité que de changement.
Oui, c'est d'abord ce qui frappe et ce qui surprend sur les 27 du gouvernement Borne. 14 faisaient partie de l'équipe Castex. Bruno Le Maire à l'économie qui grimpe au deuxième rang protocolaire. Gérald Darmanin à l'intérieur. Éric Dupond-Moretti à la justice. Tous trois gardent leurs fonctions. Le maintien le plus inattendu est celui de l'ancien avocat en butte au magistrat. De surcroît mis en examen. Le syndicat de la magistrature n'a pas attendu un quart d'heure pour faire part de son incompréhension et de sa déception. À l'inverse, trois nominations visent explicitement à recoller les morceaux de leurs secteurs respectifs. Pap Ndiaye à l'éducation nationale, intellectuel, universitaire, spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités, à la tête jusqu'ici du musée de l'histoire de l'immigration. C'est la principale surprise de cette liste et c'est une sorte d'anti-Blanquer. Il est déjà la cible de l'extrême l'extrême droite. Marine Le Pen l'a qualifié d'indigéniste assumé, mais c'est un signal envoyé au corps enseignant. Idem pour la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, physicienne et présidente de la prestigieuse université Paris-Saclay. Enfin, les diplomates inquiets ou révoltés par les réformes en cours voient arriver l'une des leurs au Quai d'Orsay, Catherine Colonna, qui était notre ambassadrice à Londres depuis un peu moins de 3 ans et que les journalistes connaissent très bien, puisque Jacques Chirac en avait fait sa porte-parole à l'Élysée pendant 9 ans, de 1995 à 2004, ce qui est un record inégalé.
Quid de la priorité écologique de ce gouvernement ?
Alors, il sera piloté par un trio de femmes, Elisabeth Borne donc à Matignon et à la planification, avec deux ministres de plein exercice au profil plutôt techno, Amélie de Montchalin qui était à la fonction publique et qui aura la charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et Agnès Pannier-Runacher qui passe de l'industrie à la transition énergétique. À noter qu'il n'y a plus de ministre des Transports, en tout cas l'intitulé a disparu pour l'instant. Parfois c'est des choses qui se rattrapent après coup.
D'autres promotions ?
Oui, d'abord celle de deux fidèles du président. Sébastien Lecornu prend le ministère des Armées et Gabriel Attal devient à 33 ans le ministre délégué au compte public, c'est-à-dire le budget, un poste clé où Giscard, Chirac, Fabius, Juppé, Sarkozy, Darmanin et j'en oublie ont fait leur gamme. Olivier Dussopt, ex-député PS, quitte le budget pour le ministère du Travail et donc le dossier explosif des retraites. Brigitte Bourguignon reprend la santé à Olivier Véran qui se retrouve rétrogradé aux relations avec le Parlement. La santé, mais pas les solidarités et le handicap confiés à Damien Abad qui était le chef du groupe LR à l'Assemblée nationale. Nouvelle prise de droite pour la majorité. Stanislas Guérini, le chef des marcheurs gaffeurs, hérite de la fonction publique. Yael Braun-Pivet va tenter de rétablir les liens avec l'outre-mer comme président de la commission des lois à l'Assemblée. Elle avait mené l'an dernier une mission sur la crise du Covid outre-mer et a noté qu'une élue de Guadeloupe fait son entrée au gouvernement, Justine Bénin, nommée secrétaire d'État à la mer.
D'autres nouveaux visages ?
Oui, celui de Rima Abdul Malak, franco-libanaise de 44 ans, qui était la conseillère culture d'Emmanuel Macron et qui va succéder à Roselyne Bachelot. Et au sport, celui d'Amélie Oudéa-Castéra, ancienne joueuse de tennis, directrice de la Fédération française de tennis depuis l'an dernier et épouse du PDG de la Société Générale, Frédéric Oudéa, dont on se demandait pourquoi il vient d'annoncer son départ de la banque. Eh bien, on a maintenant la réponse. Voilà, j'ai cité presque tout le monde parmi les 27 nominations annoncées tout à l'heure, donc 14 hommes et 13 femmes. Mais on remarque aussi deux grands partants, Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa, soit deux des figures les plus marquantes et les plus clivantes du quinquennat précédent. Mais c'est loin de suffire à tourner la page.
De vedettes carrément, hein, des gouvernements précédents. Alain Duhamel, si vous deviez résumer en quelques mots ce que vous inspire le gouvernement Elisabeth Borne.
Bon, disons qu'il ressemble assez au gouvernement précédent, il ressemble principalement au gouvernement précédent, qu'il y a plusieurs promotions que je trouve intéressantes.
Celle de Gabriel Attal notamment, je voyais la relever particulièrement.
Oui, parce que les secrétaires d'État au budget, c'est là où on met ceux qu'on considère comme des vrais espoirs pour la suite. Et comme le rappelait Patrick à juste titre, énormément de futurs premiers ministres ou de futurs candidats à l'élection présidentielle sont passés par là.
C'est une rampe de lancement, quoi.
Oui, mais c'est alors un travail de chien. Ouais. Et c'est surtout la nécessité de démontrer qu'on a une intelligence à la fois précise, mais vraiment ouverte sur beaucoup de sujets, parce qu'il couvre tout. Eh oui, c'est un ministère universel de ce point de vue. Et donc, il est très intéressant.
Autre promotion que vous vouliez, sur laquelle vous vouliez revenir, non ?
Il y a Sébastien Lecornu, évidemment, alors, qui est marquant au ministère des Armées.
Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en général, au ministère des Armées, on a des gens plutôt techniciens ou comme était Françoise
Parly,
essentiellement budgétaire. Là, c'est un vrai politique. En même temps, c'est un passionné du sujet et il piaffait pour avoir ce poste-là depuis des années. C'était son objectif, c'est ça qui l'intéressait.
Bon, il a été entendu. C'est pas vraiment une promotion, mais tout de même, parce qu'il gagne en rang protocolaire, en tout cas dans la façon dont le gouvernement a été annoncé, c'est Éric Dupond-Moretti. Pourtant, on le donnait presque partant.
On peut même dire qu'on le donnait partant. Et qu'à ma connaissance, c'est Emmanuel Macron personnellement qui ne refusait qu'il s'en aille. Qui refusait qu'il s'en aille parce qu'il a très envie de faire une réforme de la justice qui en a besoin. Éric Dupond-Moretti est arrivé à arracher deux remarquables budgets mais au milieu de polémiques permanentes avec, sinon les magistrats, du moins les syndicats de magistrats, et aussi de très hauts magistrats. Bon, il est en conflit, c'est pour ça que quand on parle de conflit d'intérêts, il est en conflit, en fait, avec des magistrats qui n'ont pas du tout oublié ce qu'il disait quand il était avocat. Alors, il faut reconnaître que ce n'est pas quelqu'un qui retient ses mots.
Oui. Hein,
et donc, il s'est mis la magistrature à dos, mais en revanche, il a de très bonnes idées pour la réforme de la justice. Et donc, Emmanuel Macron n'a pas voulu qu'il s'en aille.
Ni se dédire, d'ailleurs, Emmanuel Macron.
Voilà. Et puis, la promotion la plus marquante, en tout cas, dans l'ordre protocolaire, c'est celle de Bruno Le Maire, oui, numéro 2 du gouvernement, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, et qui a obtenu que Bercy, la forteresse de Bercy, comme on dit parfois dans un cliché habituel, ne soit pas saucissonnée en plusieurs morceaux. Il a l'ensemble du paquet.
Et qui voulait Bercy ou rien. On essayait de le nommer ailleurs, par exemple l'éducation nationale, mais c'était Bercy ou rien. Et moi, ce qui me frappe, c'est que il imite point par point la stratégie du jeune Valéry Giscard d'Estaing, par la longueur aux finances, par la façon de se distinguer politiquement sans se brouiller vraiment. Il y a quelque chose.
Ouais. Et il est en train de battre le record de Valéry Giscard d'Estaing, qui a été deux fois ministre de l'économie et des finances. Mais d'un seul tenant, on n'a jamais eu une telle longévité à ce poste.
Non.
Donc un gouvernement plutôt dans la continuité, qui ressemble beaucoup au précédent, sauf des surprises.
Bah oui.
Le fameux Pape Ndiaye, historien, directeur du Musée national de l'histoire de l'immigration. On l'avait reçu, enfin c'est pas moi d'ailleurs, c'est Ali Badou qui l'avait reçu à Celle Hebdo, c'était le 30 octobre 2020. On l'écoute.
D'un mot, c'est pas trop difficile d'être directeur du Musée de l'immigration à un moment, très particulier qu'est cette campagne présidentielle.
Qu'est-ce que tu dirais ?
C'est difficile, c'est passionnant. Je pense qu'il est possible d'intervenir dans la société française d'aujourd'hui, mais à notre façon, avec le travail des démographes, le travail des historiens de l'art, tout ce qu'on peut faire. En prenant ce petit pas de distance par rapport à l'actualité pour ne pas sombrer dans les échanges polémiques,
Twitter, et le pire
de ce qui peut arriver en France.
C'est intéressant ce que dit Pape Ndiaye.
Oui, c'est intéressant, mais surtout l'actualité, il va y plonger et l'eau sera froide, forcément. Ouais. C'est quelqu'un de brillant, c'est un historien réellement estimé, c'est quelqu'un de très entreprenant, qui a plein d'idées. C'est en même temps un symbole. On l'a tous compris et tous dit, mais c'est le contre-pied de Blanquer, qui avait bien commencé et qui a moins bien terminé. Surtout, ils incarnent deux sensibilités vraiment à l'opposé sur les questions de laïcité, de racisme, de gauchisme, en tout cas présumé, de l'université, etc. On peut pas faire plus différent.
Et ça fait réagir immédiatement Marine Le Pen. Voilà, la nomination de Pape Ndiaye, indigéniste assumé, pardon.
Oui, et Jean-Luc Mélenchon aussi, c'était assez frappant dans sa réaction. Jean-Luc Mélenchon a reconnu à quel point il avait de l'estime pour l'intellectuel qu'était Pape Ndiaye, pour aussitôt trouver une citation où il critiquait le président Macron.
Mais oui, c'était en juillet 2019.
Il y a eu cette reconnaissance pour la qualité du personnage.
Ce qui, de la part de Jean-Luc Mélenchon, est une générosité totalement inhabituelle.
C'est pour ça que je la faisais remarquer.
Oui, non, mais vous avez tout à fait raison.
Mais c'est un pari, parce que déjà, il n'est pas rompu à cet exercice aux affaires gouvernementales, et puis c'est un électron libre, potentiellement.
Bien sûr, c'est un pari et c'est un risque. C'est un pari intéressant. C'est une façon, évidemment, d'envoyer un signal en direction des enseignants et des universitaires, qui ne sont pas au mieux avec le gouvernement, comme chacun sait, puis qui ont beaucoup voté Mélenchon. Lui, il est chargé de trouver un autre ton et probablement de proposer d'autres réformes. Maintenant, c'est quelqu'un qui est un vrai intellectuel indépendant et donc qui est tout à fait capable d'abord de commettre des gaffes, bien entendu. Ensuite, il ne connaît pas du tout les rites et les pièges et les codes. Et puis, il peut se fâcher, il peut dire le contraire de ce qu'il entend, et voire de ce que dit le président. Donc, c'est très intéressant. Bon, on voit que là, il y a un symbole politique fort, délibéré, et c'est une des deux surprises avec Catherine Colonna.
Alors, justement,
le retour au gouvernement de Catherine Colonna. 15 ans après, elle est nommée ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, où elle succède à Jean-Yves Le Drian. Patrick le disait, ancienne porte-parole de l'Élysée, puis ministre déléguée aux Affaires européennes de Jacques Chirac. Entre 2005 et 2007, la toute nouvelle ministre s'intéresse alors de près à une nouvelle forme de transport moins polluant, le méroutage.
Ce matin, dans la rade de Toulon, la ministre déléguée aux Affaires européennes est venue encourager ce mode de transport.
C'est une chose dont on parle depuis longtemps, hein. Depuis plusieurs années, on a entendu parler des projets d'autoroute de la mer. Voilà. Ça y est, ça commence, c'est bien de le voir, ça fonctionne, il faut l'encourager, puis tout simplement il faut que la rentabilité économique soit là, c'est-à-dire qu'il y ait du trafic.
Alors c'est une diplomate qui reprend le Quai d'Orsay. Elle était ambassadrice de France à Londres, un symbole, alors que nous sommes justement en pleine guerre d'Ukraine.
C'est une diplomate extrêmement expérimentée,
elle a, oui, bon,
qui
elle
a obtenu les principaux postes qu'on peut avoir, qui, bon, quand elle était porte-parole, faisait bien son travail, mais donc a aussi une formation politique. Bon. C'est aussi, si j'ose dire, une pièce rapportée, puisqu'elle vient de la maison Chirac.
Oui.
Elle vient de la maison Chirac, elle était très fidèle, elle l'est sûrement toujours.
Pour remplacer
bon,
Le Drian.
Alors, c'est un peu l'opposé, parce que Le Drian connaissait par cœur Emmanuel Macron, ils avaient un mode de fonctionnement qui était très très rodé. Elle a des bonnes capacités intellectuelles, donc elle apprendra. Mais en ce qui concerne le type de relation qu'elle aura avec Emmanuel Macron, ça sera forcément très différent de Jean-Yves Le Drian, c'est pas de soi.
Et elle arrive, on l'a dit, dans une maison en crise, hein, parce que les diplomates...
Elle arrive dans
râle
une...
beaucoup.
Non, mais les diplomates sont en grève, ce qui quand même n'est pas très diplomatique, enfin en tout cas pas dans les habitudes diplomatiques. Ils sont furieux qu'on supprime leur corps, comme les préfets ont été furieux, comme tout le monde a été furieux en réalité.
Les corps d'État,
alors
les
ça,
grands
c'est
corps.
Vraiment, je profite de l'occasion,
oui.
Ça c'est vraiment très français. Pendant 40 ans, j'ai entendu les Français dire, on en a par-dessus la tête, des énarques, des technocrates, on n'en veut pas, il faut supprimer les NA, il faut en terminer avec tous ces...
Les grands corps,
empanachés,
les finances,
etc. Il le fait. Et immédiatement, tout le monde dit mais alors, et les préfets, et les diplomates
Parce qu'on craint le copinage, les cooptations, en quelque
d'accord,
sorte.
D'accord, mais enfin.
Qu'avant, les grands corps désignaient les fonctionnaires.
On a insisté 40 ans pour avoir quelque chose, on l'obtient et on est furieux.
Non, c'est
non on est français. Ben oui.
Si on n'avait pas été français, on se serait inquiété ce soir, quand même, Alain Duhamel. Oui, Patrick ?
Une chose aussi m'a frappé. On attendait, ça a beaucoup été dit ces dernières semaines, la nomination de grands élus censés représenter les forces vives des territoires. Beaucoup de noms ont été cités parmi les ralliés, les derniers ralliés à Emmanuel Macron. Robert Ménard, encore hier, nous disait... C'est hier, oui. Hier nous disait, j'attends quand même qu'il y ait des signes au gouvernement de présence des territoires. Il n'y en a qu'un seul, finalement. C'est le maire d'Angers, Christophe Béchu. Et seul représentant, apparemment, de Horizon, c'est-à-dire le parti fondé
d'Edouard
par Édouard Philippe. Il est chargé des collectivités territoriales comme ministre délégué. C'est un peu, un peu mince, non ?
Oui, absolument. Et on va voir comment il se débrouille.
Prise de guerre, on peut le dire, Damien Abad, qui était encore hier le chef de file des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui s'est mis en congé de son parti et qui donc a été nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées.
Ce qui est un gros ministère. Bon, c'est quelqu'un qui, pendant 5 ans, a été à l'Assemblée nationale le principal adversaire d'Emmanuel Macron. C'était son groupe qui était le groupe d'opposition le plus important. Il a souvent été véhément. Il y a des excès qu'il n'a pas partagés. Mais enfin, on peut dire que c'était vraiment un opposant résolu.
Moins que Christian Jacob, mais bon.
Oui, oui, mais tout de même.
Mais enfin, c'était lui le président du groupe. Hein.
Oui.
Non, mais moi, mais tout le monde, moins Christian Jacob. Donc ça, c'est pas le problème.
Mais, et donc, vous trouvez que ce revirement est un peu...
Écoutez, je trouve que ce revirement est un peu rapide, pas très fin... pas très élégant et assez suspect.
Suspect, c'est-à-dire
Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans quelqu'un qui a expliqué pendant 5 ans que vous faisiez le contraire de ce que vous faites ? Puis ensuite, il entre au gouvernement. Je veux dire, alors pourquoi pas Mélenchon ?
Alors juste...
juste un mot encore sur Olivier Véran,
oui.
Qui est On pouvait s'attendre à ce qu'il reste dans ce... Enfin, il reste dans ce gouvernement, bien sûr, mais il perd la santé. Donc, c'est une sorte de dégradation ou pas
du point de vue du protocole républicain, il n'y a aucun doute, il devient ministre délégué. Et puis, c'est un poste qui, théoriquement, est beaucoup moins prestigieux. Et avec, évidemment, des contenus. Par exemple, il n'y a pas de contenu budgétaire, par exemple, ce qui n'était vraiment pas le cas à la santé, où c'était l'inverse. Il y a deux choses qui peuvent expliquer ça. Enfin, il y en a trois. La première, c'est qu'on le voit sur le front depuis 3 ans dans des circonstances difficiles, que, voilà, et que c'est une image que probablement Emmanuel Macron ne voulait pas voir continuer à scander la vie des Français. Mmh. Bon, mais d'une part, il a aussi dans ses attributions le renouvellement de la vie démocratique. Et ça peut correspondre à quelque chose, puisqu'il est question de réfléchir à des changements des institutions, du mode de scrutin, mais aussi essayer d'inventer des formes, bon courage, de participation démocratique des Français. Il y a un pays que je connais où ça a réussi, c'est le Québec. Pour le reste, je n'ai pas vu beaucoup d'exemples de réussite de ce genre, mais ça n'est pas inintéressant.
C'est une mission impossible, presque.
Mais alors, l'autre chose qui est certaine, c'est qu'on va enfin avoir une Assemblée nationale qui servira à quelque chose. L'Assemblée nationale, les groupes d'opposition vont être beaucoup plus puissants cette fois-ci. On va se retrouver avec, je ne sais pas combien, 150, 180 députés mélenchonistes, sans Mélenchon, avec un vrai groupe du Rassemblement national, ce qui n'avait pas existé depuis la première cohabitation 86-88 et le scrutin proportionnel et Jean-Marie Le Pen. Donc il va y avoir une vie beaucoup plus tumultueuse et donc il va avoir beaucoup de travail. Il est très actif, donc ça n'est pas un problème. Il a un caractère assez cassant, ça peut être un problème.
Marion.
Alors vous le disiez, pourquoi pas Mélenchon? Eh bien, quelques minutes après l'annonce de ce nouveau gouvernement, sur le perron de l'Élysée, Jean-Luc Mélenchon a réagi.
Un nouveau gouvernement vient d'être constitué. On y retrouve les principales figures de la maltraitance sociale et de l'irresponsabilité écologique du précédent gouvernement. Avant toute chose, ce sera donc le pire, c'est-à-dire la continuité. Cette équipe n'est là que pour un mois, puisque dans un mois, les élections législatives renouvelleront la majorité à l'Assemblée nationale. Et dans ces conditions, on peut imaginer que tous ces gens ne font que passer si les électeurs le décident en votant pour une majorité alternative, la nôtre.
Voilà, une bande-annonce de ce que pourrait être la nouvelle Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon, il veut transformer les législatives en référendum, pour ou contre ce gouvernement?
Alors, Jean-Luc Mélenchon, il faut lui reconnaître ce qu'il a. Il vient de réussir une prouesse. C'est-à-dire qu'il a inventé un type de stratégie politique qui n'avait jamais existé sous la Ve République et qui consiste, le soir du premier tour de l'élection présidentielle, quand on n'est pas qualifié pour le deuxième, de dire « ça ne compte pas, maintenant ce sont les élections législatives et on verra qui sera le Premier ministre à la fin des élections législatives ». En réalité, il invente un rôle de contre-premier ministre. Et moi, mon idée, qui vaut ce qu'elle vaut, mais comme simultanément, ce qui paraît paradoxal, il ne se représente pas aux élections législatives, donc il renonce à une animation parlementaire, ça veut dire qu'il a autre chose en tête. Alors certains disent qu'il veut prendre du champ, etc. Il va avoir un groupe énorme, ça sera un succès, c'est pas le moment où il prendra du champ, je n'y crois pas un instant. Donc, moi, ce que je me dis, qu'il va essayer de réinventer le rôle de contre-président qui avait été une spécialité de François Mitterrand pendant des années et qui lui avait permis à la tête de la gauche, d'une gauche réformiste, à tête de la gauche, de se rapprocher progressivement du pouvoir. Et je pense que ça veut dire qu'il sera candidat la prochaine fois. Alors, ça ne sera pas un jeune candidat, je ne suis peut-être pas le placé pour dire ça, mais enfin, ça ne sera pas un jeune candidat, ça sera un candidat redoutable, et il a réussi un coup politique, il faut bien dire, et il a inventé une stratégie. Bon, une fois que j'ai dit tout ça de bien, j'ai regardé le programme, et je pourrais dire tout ça de mal.
Allez-y en quelques mots.
Non, mais ça va de soi, je veux dire, parce que il y a des dépenses gigantesques, totalement désaccordées avec la situation de crise et d'endettement dans laquelle on se trouve. Il y a des des dizaines de propositions qui sont le contraire de l'économie de marché, c'est tout à fait son droit, bien entendu. Il peut proposer ce qu'il veut. Mais la crédibilité de ce qu'il propose globalement est à l'inverse de son talent politique et de son éloquence.
À l'opposé de l'échiquier politique, Marine Le Pen, du Rassemblement national, qui a critiqué jusqu'au dernier moment le temps incroyable que prenait Emmanuel Macron et sa première ministre pour mettre en place un nouveau gouvernement.
Ça a déjà duré 3 semaines pour obtenir un Premier ministre, c'était quand même très long. Et maintenant, on continue à attendre pour avoir un gouvernement. Donc pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Et il est inadmissible qu'il ne se passe rien compte tenu de la situation. C'est le confort des Français auquel il devrait penser plutôt qu'à son confort à lui-même. D'autant qu'on sait très bien qu'il peut y avoir encore des remaniements à l'issue précisément du résultat des législatives. Oui. Donc c'est impardonnable de se comporter avec, je pense, autant de légèreté.
Légèreté ou tactique, Alain Duhamel ?
Alors d'abord, c'est une tactique qu'on apprécie ou pas, c'est autre chose. Mais en fait, Emmanuel Macron applique maintenant exactement la même méthode qu'il a appliquée pendant la campagne présidentielle. Il l'a reproduit, c'est-à-dire faire tout pour que le débat s'engage le moins possible, le plus tard possible, et que la campagne soit réduite à 3 semaines. Ça a été le cas pour la présidentielle, le moment où il s'est vraiment engagé, ça, c'est le cas cette fois-ci, et l'objectif est le même. À partir du moment où il y a, comme c'est le cas maintenant, 3 groupes de taille non pas équivalentes, mais comparables, à partir de ce moment-là, il faut en permanence qu'il se choisisse un adversaire privilégié. Pour la présidentielle, il s'était choisi Madame Le Pen, et cette fois-ci, il choisit Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il pense que c'est le plus efficace. Donc il est devenu bon tacticien politique.
Enfin.
Je dirais enfin, oui, parce que si vous vous rappelez, je crois que je vous l'avais dit, au départ, ça n'était pas du tout le cas. Ensuite, on peut discuter complètement de son programme, de ses propositions, ou de l'absence de programme et l'absence de propositions, etc., naturellement. Quant à Marine Le Pen, je trouve qu'elle ne manque pas de souffle, quand même. Parce que reprocher au gouvernement de ne rien faire pendant 3 semaines, alors qu'elle-même est partie 2 semaines en vacances, et qu'en rentrant de vacances, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est, je sais bien qu'on ne gagnera pas, ce qui d'ailleurs est vrai, et qu'on aura beaucoup moins de députés qu'on pouvait l'espérer. Bon, alors je veux très bien qu'à ce moment-là, disons qu'elle compense, en surchargeant ses charges. Mais les Français ne sont pas idiots non plus. Je pense qu'ils la trouvent, y compris ceux qui votent pour elle, outrancière.
Marine Le Pen, outrancière. Merci beaucoup Alain Duhamel. On va continuer à commenter l'actualité, notamment l'une des premières réformes à laquelle va devoir s'atteler ce nouveau gouvernement, c'est celle des retraites, avec l'idée de repousser l'âge du départ à la retraite, soit en fixant, pas un âge pivot, mais un âge limite, soit en augmentant le nombre d'annuités, un sujet qui clive et dont on parlait sous l'Arc de Triomphe, c'était le 8 mai dernier.
Et toujours en activité à 65 ans. On s'est vu en Égypte.
C'est un bon exemple. C'est bon, Égypte, avec
l'ambassade de Mathieu. Ça va, en forme. Toujours fidèle.
Bonsoir François de Closet.
Bonsoir.
Journaliste, essayiste, vous signez la parenthèse boomers pour désigner cette génération de l'après-guerre qui n'a connu ni guerre ni crise et qui sont aujourd'hui, selon vous, des retraités privilégiés, mieux traités que les actifs. Résultat, vous estimez qu'il faut reculer l'âge de la retraite, non pas à 65 ans, non, à 67 ans, dans la mesure du possible, et en distinguant 2 générations de retraités. Expliquez-nous votre projet.
On ne peut rien comprendre au problème des retraites si on parle des retraités. Non, il y a 2 populations. Tout à fait distinct. Il y a d'une part les seniors, c'est à peu près 60 à 75, 80 ans. Et sauf ceux qui ont fait des métiers épuisants, sauf ceux qui ne sont pas en bonne santé, ce sont des gens qui sont en parfait état de vivre et de produire et de travailler, de remplir des activités utiles. Et puis au-delà, il y a les 80-100 ans qui, eux, n'ont pas seulement besoin que la société leur paye une retraite, qui ont besoin qu'on les aide, qu'on les assiste. Ce sont 2 problèmes entièrement différents. Et confondre les seniors et les vieux, c'est s'assurer qu'on ne pourra jamais résoudre ce problème. Et si on ne résout pas ce problème des vieux, nous aurons de gros ennuis.
La retraite à 60 ans proposée par Jean-Luc Mélenchon, c'est à vous lire une idée de boomer. C'est-à-dire qu'on continue à faire payer les jeunes et à leur faire porter toute la charge.
Écoutez, on ne donne pas des années de retraite. On fait payer des années de pension. Et qui les paye ? Ce sont les actifs. Et dans la société française, c'est une exception française, dans la société française, d'une façon générale, le niveau des retraités est supérieur au niveau des passifs. C'est une particularité française.
Mais en moyenne.
Nulle part, les retraites ne pèsent aussi lourd. Et donc, venir aujourd'hui nous dire que ce sera un grand progrès social, que ceux qui ont moins payent pour ceux qui ont plus, il faut vraiment être Mélenchon pour inventer un truc pareil.
Mais vous êtes représentatif de cette génération ultra privilégiée, François de Clauset, cette génération de boomers qui a profité de cette parenthèse enchantée.
Mais totalement. Et j'ajoute que si je continue à travailler à un âge un peu avancé, ce n'est pas parce que je suis très courageuse, parce que je suis privilégiée. Je suis privilégiée. Toute ma vie, on m'a payé pour faire ce qui me passionne. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'arrêter. Il faudra le tuer. Ben, y en a beaucoup qui doivent le penser. Mais ça, je le comprends. Hein, je le comprends. Simplement, il faut toujours se poser la question... Combien ça coûte et qui paye ? Qui paye la retraite ? Et quand vous regardez les chiffres, vous vous rendez compte que par rapport aux pays voisins, aux pays auxquels on peut se comparer, l'Allemagne, les autres pays européens, hein, les actifs français, les 20-60 ans, payent 100 milliards de plus, 100 milliards de plus pour les payer, financer les retraites. Et vous voyez, au contraire... que les retraités ont un niveau de vie supérieur, et encore, en ne tenant pas compte du fait que les trois quarts des retraités sont propriétaires de leur logement, donc ne payent pas de loyer, et le loyer, c'est 25%. Vous vous rendez compte ce que ça fait comme décalage ?
Il n'y a pas que la question des retraites, hein. Vous y allez fort. Vous considérez que les boomers ont ruiné la France et que le déclin de notre pays, c'est à... eux qu'il faut l'attribuer et non pas à des idées politiques. Moi, j'aimerais bien juste le regard d'Alain Duhamel sur cette aïe. Façon d'accabler les voilà, boomers.
Je me retrouve à Sciences Po. Bon,
d'abord, je me demande pourquoi est-ce que vous mettez en cause Jean-Luc Mélenchon. Non pas que je défende son programme, j'ai dit le contraire tout à l'heure. Et pas Marine Le Pen qui demande exactement la même chose.
C'est moi qui ai cité Jean-Luc Mélenchon, c'est ma faute.
Bon d'accord. Alors,
okay. La première balle était pour moi.
Dans le même sac.
Ensuite, la spécificité française, c'est une évidence, donc je la partage, vous avez raison. Le fait que les Français refusent ce que nos voisins acceptent, et que nos voisins acceptent alors même que leurs retraites sont proportionnellement inférieures aux nôtres, et que la différence est effectivement que les retraites en France, par rapport au salaire, les retraités sont déprivilégiés par rapport au salaire. Quand on dit les retraités, c'est bien entendu une partie des retraités. C'est pas
mais on
retraités.
Sait qu'il y a de petites retraites scandaleuses en France.
Ben oui, bon. Et je pense que c'est un grand sujet politique, qu'il faut le traiter, et que, de toute manière... Pour le traiter, il faut être sûr de ne pas se représenter, parce qu'autrement, on est certain d'être battu.
Donc, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron.
Ben oui, c'est pour ça que je crois qu'il fera la bonne
réforme,
ça, je n'en sais rien. D'ailleurs, je ne sais pas encore tout à fait ce que ce sera. Mais c'est certain que s'il devait se représenter dans 5 ans, il n'aurait pas beaucoup de chance.
Marion.
Alors, François Clauset, vous accusez les boomers d'avoir ruiné la France, mais aussi d'être égoïste, d'être individualiste, au point d'avoir pillé les ressources de la planète avec cynisme. Regardez ces jeunes diplômés de l'école d'ingénieurs AgroParisTech qui ont exprimé tout haut leur volonté de changement.
AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières, trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs, concevoir des plats préparés et ensuite... des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres, développer des énergies dites vertes qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire.
Mais quelle vie voulons-nous ? Un patron cynique ? Un salaire qui permet de prendre l'avion ? Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon ? Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite. Vous pouvez bifurquer maintenant.
Je ne sais pas si vous aviez vu ce discours. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais écoutez, c'est écrit dans le livre. Je dis dans le livre que les accusations que je porte contre les boomers ne sont rien à côté de l'accusation fondamentale contre notre génération qui est d'avoir détruit la planète. Bien sûr, simplement, faire ce procès aux boomers français, ça n'a pas grand sens, parce que tout le monde est coupable, alors que là, ce sont les gens qui ont dirigé la France qui sont coupables, et je les désigne. Mais venir dire que tout le monde est coupable, oui, et les jeunes ont raison de faire ce procès. Simplement, du coup, ils ne font plus le procès des boomers, parce qu'ils font le procès des pollueurs.
Je pense que si vous écoutez l'intégralité de l'intervention, je ne pense pas que vous soyez d'accord, et je pense même que vous ne serez pas du tout d'accord, parce que c'est un discours très anti-science, et que je vous connais, François de Closet, vous avez toujours eu confiance dans la science, dans le progrès de la science, pour résoudre les problèmes. La science ne résoudra pas tous nos problèmes écologiques, mais elle en résoudra une partie. Le discours de ces jeunes-là refuse entièrement les progrès de la science pour l'agriculture notamment et pour nourrir la planète, car ce qu'ils disent, ce qu'ils demandent, c'est de réduire les rendements agricoles. Enfin, c'est le fond de leur discours.
Vous savez, c'est toute la folie de ces gens qui sont obsédés par les rejets de gaz carbonique, et comme ils ont raison, et qui concluent donc faut pas faire de nucléaire. Moi, il faut qu'on m'explique, voilà. J'ai jamais compris.
Alain, vous vouliez réagir?
Oui, non, mais moi, ce qui me frappe, c'est que dans le débat politique actuel, personne n'essaye de quantifier exactement ce que nous coûtera la lutte pour revenir à un rythme raisonnable, digeste en 2030-2050. C'est évident que ça va être quelque chose de gigantesque qui s'ajoute et qui surplombe la crise actuelle, et que avec notre endettement d'une part, notre déficit budgétaire d'autre part, la crise qui se développe à la suite de la guerre d'Ukraine et tous les effets secondaires que ça entraîne sur l'alimentation, les spéculations, les transports, faire ce qui est nécessaire est épouvantablement coûteux. Ça veut dire que c'est un changement de mode de vie. Et qui le dit, qui le quantifie, qui le montre?
Personne pour l'instant.
Mais c'est ce que l'on n'ose pas dire. Il y a une réflexion, non à l'écologie punitive. Tiens donc, l'écologie, la vraie, celle qui regarderait la réalité en face, nous dirait, vous allez changer votre mode de vie, comme vous venez de le dire. Mais changer le mode de vie, c'est une épreuve terrible. Venir nous dire, oh non, ce ne sera pas punitif, ça se passera en douceur, c'est se foutre du monde. Pour sauver la planète, oui, nous allons devoir souffrir énormément. Et alors, pour le dire.
Un dernier mot, Marion.
Très brièvement, il y a des gens comme Jean Covici qui chiffrent tout ce que...
C'est pas porté dans le discours, dans le débat public.
Non, mais enfin, il y a quand même dans des gens qui le chiffrent, et depuis longtemps, et qui s'entendent. Alors, juste pour finir, ces boomers, vous leur reprochez aussi de vivre dans l'instant, d'être dans la procrastination, de ne pas avoir vu le scandale des EHPAD venir. Et dites-vous, le problème ne fait que commencer. On aurait quand même pu prévoir qu'en 800 000 bébés naissent en 1948, on peut s'attendre à ce que 80 ans plus tard, il y ait de nombreux vieillards. C'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose.
Le vieillissement, c'est le problème qui nous attend. Et simplement, alors, je voudrais dire que ma conclusion, qui se fondent sur les faits, qui se fondent sur l'expérience des pays les plus avantagés, est tout à fait positive, c'est-à-dire que les vieux, attention, on ne parle pas des seniors, hein, on parle des vieux de 90 ans et plus, ceux-là, s'ils sont malheureux, ils sont trop coûteux, ils vont nous ruiner, mais on sait comment on peut faire pour qu'ils soient heureux. Et dans ces conditions, des pays comme le Danemark ou d'autres prouvent qu'alors, on peut équilibrer les comptes dans une société de vieillissement. C'est à nous de choisir.
Le Danemark est le pays le plus solidaire avec ses concitoyens moins solidaire avec les autres.
Ah. Oui. Ouais. C'est une générosité qui les concerne à l'intérieur des frontières.
C'est nouveau. Ils se sont aperçus qu'il faut être heureux ensemble et pas avec les autres. Oui. C'est vrai.
Bon, c'est un autre modèle. Réconcilier les générations, quand même, c'est l'objectif. Hein. On tape sur les boomers. Mais c'est pour mieux réconcilier les générations.
C'est possible.
C'est possible. Merci Françoise Closet d'être venue ce soir sur le plateau C'est à vous. Vous restez avec nous, ça sort, c'est sorti, ça sort mercredi prochain, le 25 mai aux éditions Fayard. Vous restez avec nous, le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Dans la tête. Mathieu, une page santé pour commencer.
Et franchement, on ne va pas se mentir, ces deux dernières années, ouais, on est tous devenus particulièrement vigilants aux informations sanitaires. Qui ne prend pas peur en entendant ça ?
The CDC is investigating a confirmed case of a rare and sometimes deadly disease called monkeypox.
Very first confirmed case of monkeypox in Australia's history.
Casos de varíola dos macacos na região de Lisboa.
On a 17 cas suspects dans le Grand Montréal.
New infection which is starting to spread in the UK. No, it's nothing to do with COVID. It's a virus called monkeypox.
Ya se han confirmado los 7 primeros casos de viruela del mono detectados en España, todos en Madrid.
It's called monkeypox. It's a virus, but it's actually not carried by monkeys.
Premier cas suspect de variole du singe détecté en Île-de-France.
Ça fait peur, hein?
Bon,
alors, variole du singe, une nouvelle maladie pour le grand public détectée chez des dizaines de personnes depuis le début du mois et un premier cas identifié en région parisienne. L'avantage aussi, c'est que tous les journalistes connaissent désormais des spécialistes, des infectiologues en particulier. Alors, Louis Amar et Camille Schmitt sont allés interroger le professeur Imad Kanso. C'est quoi cette variole du singe?
C'est un virus qui se transmet à l'homme comme une zoonose, c'est-à-dire à partir des animaux. On découpe la viande, on est en contact des animaux, des griffures. Donc une fois chez l'homme, ça se transmet par tous les moyens, c'est-à-dire des gouttelettes, donc la salive, la peau, les sécrétions. Donc ça se transmet très facilement, comme le virus par exemple de la varicelle. Entre 5 et 21 jours après que le virus s'est multiplié de manière silencieuse dans le corps, il va donner des symptômes. Alors c'est quoi? C'est la fièvre, c'est des ganglions, des courbatures, douleurs musculaires. Et 2-3 jours après cette fièvre, on va voir apparaître une éruption cutanée, des boutons rouges, des vésicules remplies de pus et des croûtes qui apparaissent.
Bon, c'est assez peu ragoûtant comme ça, je vous l'accorde, mais bon, vous saurez la reconnaître. Une première bonne nouvelle, c'est que les générations, on parlait de générations il y a un instant, les générations qui ont connu le vaccin contre la variole pourraient déjà être immunisées. Mais dans le fond de la question, c'est la gravité de cette nouvelle maladie. Est-ce qu'il y a, oui ou non, matière à s'inquiéter ?
A priori, de ce qu'on a observé jusqu'à présent, ce n'est pas une maladie létale. Donc ça, c'est déjà rassurant. Comment on la traite? On n'a pas encore testé des molécules antivirales qui puissent nous aider à traiter. Il y a des molécules antivirales qu'on peut utiliser contre des formes graves de varicelle. On va devoir faire des tests pour tester donc ces médicaments, mais on ne dispose absolument pas de traitement. Donc c'est symptomatique et on n'a pas de médicaments directs. Je ne me sens pas dans le même état d'esprit que la Covid, qui était très inconnue.
On étudie aussi pour l'heure la possibilité de foyers de contamination dans le milieu homosexuel au Royaume-Uni en particulier, mais contrairement à ce qui a déjà pu être répété, rien ne confirme que cette variole du singe soit une maladie à proprement parler sexuellement transmissible.
Près d'une semaine après l'attentat de Buffalo aux États-Unis, on revient sur la question des suprémacistes blancs.
Oui, et sur leur lecture, leur appropriation de la théorie dite du grand remplacement. Pour commencer, je vous présente Tucker Carlson, éditorialiste, animateur de talk show sur la très conservatrice chaîne Fox News. 5 soirs par semaine, il égrène les théories du complot, les fake news, et il relaye la dite théorie d'extrême droite du grand remplacement.
The Democratic Party is trying to replace the current electorate. It is the secret to the entire immigration debate. Demographic change is the key to the Democratic Party's political ambition. In political terms, this policy is called the Great Replacement. They're trying to change the population of the United States, and they hate it when you say that because it's true. Our country's being invaded by the rest of the world.
Et simplement, en complément, en parenthèse presque, puisque je vous parlais ici même, à la même heure hier, de la pénurie de lait aux États-Unis, regardez l'analyse qu'en fait Tucker Carlson.
Illegal aliens are getting, quote, pallets of baby formula from the Biden administration. They are sending pallets of baby formula to the border. Meanwhile, in our own district here at home, we cannot find baby formula.
C'est à tel point que le New York Times a enquêté au sujet de cet éditorialiste, relevant ses fake news et relais d'extrême droite. Les journalistes ont analysé des centaines d'épisodes de plusieurs années de son talk show, suivi par 3 millions de téléspectateurs chaque soir. Le journal en fait le meilleur allié des nationalistes blancs. Lui s'en moque. Vous le voyez, tout cela dans un contexte extrêmement tendu aux États-Unis. Après l'attentat de Buffalo, où 10 personnes majoritairement noires ont été tuées, la question du racisme, du suprémacisme blanc. Illustration ce soir de ce climat américain, je vous propose cette vidéo. Regardez ce conducteur de VTC qui s'insurge contre les propos de ses passagers.
Hello, for Jackie, right?
Yeah.
How are you?
Yeah, you're like a white guy.
What's that?
Are you like a white guy?
Excuse me?
Are you like a normal guy? Like you speak English? Sorry.
No, you can get out of the car. I'm gonna cancel a ride. That's inappropriate.
What?
It's completely inappropriate.
Oh, you're a fucking asshole.
It's all on camera, man.
You're a piece of shit.
It's all on camera.
I should punch you in the fucking face.
Oh, you're gonna threaten me?
Yeah.
Assault?
Yeah. Fuck you.
Wow.
Because you guys are racist fucks.
Dude, you're a fucking asshole.
Yeah.
Fucking nigger lover. Fuck you.
Ce n'est qu'un exemple de ces tensions. Les images qui vont suivre vont peut-être vous choquer. Nous sommes au Texas à présent, où un garçon de 9 ans est allé frapper à la porte du domicile d'une petite fille noire. Et c'est bien un fouet qu'il a à la main.
Little boy, you better get your ass from off my porch beating on my door like this. I will call the police. You need to leave. Don't you ever beat on my goddamn door like that. Go!
Le petit a fini par partir, dégradant la voiture de la famille afro-américaine au passage. Vous vous en doutez bien, les parents ont voulu des explications. Ils sont allés voir leur voisin. Regardez la suite.
I'm going to show you the video of your son hitting our door with this wheel and hitting our car.
I don't know, but I know that my son told me that your boy jumped him on his way home.
We have it on video.
All right, get off my property. Seriously, get off my property.
Well, that's it.
Please. You have a gun.
Come over here on my side and see what the
you have a
fuck out of here. Fuck you, motherfucker.
Bring your motherfucking ass outside without the gun then, bitch.
I've already come out before.
Come on, let's do it. No, baby, get me. Oh, my God.
Alors heureusement, personne n'a été blessé, le coup de feu était accidentel, le père au pistolet a été arrêté.
Des pères de personnalités politiques qui dérangent.
Oui, et pas n'importe quel papa, hein. Je vais commencer par l'ancien roi Juan Carlos Ier qui faisait son retour en Espagne aujourd'hui. Roi d'Espagne émérite, c'est son titre, il est installé à Abu Dhabi depuis 2020, exilé en fait pour protéger son fils Felipe VI de ses démêlés judiciaires. Sa fin de règne n'a pas été de tout repos.
Dans la tourmente de scandales financiers, Juan Carlos a pris le chemin de l'exil, selon les médias espagnols.
Tout est parti des accusations d'une ancienne maîtresse. Elle affirme qu'il aurait reçu des pots de vin dans une affaire de construction de trains à grande vitesse en Arabie Saoudite.
Sa fin de règne est ponctuée de rumeurs et de scandales, comme ce safari en Afrique.
Cela ne nous satisfait pas, parce qu'il a été une personne très importante.
Cela abîme tout ce que Juan Carlos a fait pour l'Espagne avec sa face d'ombre et de lumière.
Expliquant son départ, Juan Carlos dit vouloir faciliter le règne de Felipe, la décision d'un ex-roi devenu encombrant.
D'hier à lundi, Juan Carlos, 84 ans, s'offre un week-end prolongé en Galice et à Madrid où il doit revoir son épouse et son fils. Je vous passe les détails judiciaires. Son fils et l'épouse de son fils. Je vous passe les détails judiciaires. Il ne risque rien. Hein. Sa venue n'est pas sans débat, cela dit, là-bas. Vous voyez là, il assistait à une régate dans un club de voile au nord de l'Espagne. On peut rappeler au passage que Juan Carlos Ier a été sacré champion du monde de voile à 79 ans en 2017. Un autre papa qui fait de l'ombre à son fils aujourd'hui. Il s'appelle Stanley Johnson, c'est un ancien député européen, c'est le père du Premier ministre britannique Boris Johnson. À 81 ans, il vient d'obtenir cette semaine la nationalité française. Du côté de sa mère, on était français. Il avait formulé la demande de nationalité au moment du Brexit pour garder un lien avec l'Europe.
Très content. Je me compte maintenant encore une fois parmi les adhérents du marché commun, de l'Union européenne. Ça, c'est très bien. Ça me compte sur le plan symbolique, sentimental, parce que vraiment, ma mère, comme j'ai déjà dit, était née à Paris, à Versailles, effectivement. Sa grand-mère était là, toute la famille était là. Alors, pour moi, c'est quelque chose de vraiment de précieux, de réclamer un peu ce morceau de mon identité.
Félicitations pour cette, nationalité française obtenue.
Ouais, il faut venir à Paris pour prendre un pot, je pense.
Absolument.
Un seul regret, on peut saluer son français qui est impeccable. Hein. J'aurais bien demandé qu'il soutiendrait désormais en cas de match France-Angleterre ou demander d'entonner un couplet de la Marseillaise.
Non. On a le bon Johnson et que les Britanniques gardent le mauvais. Et puis voilà.
Comme ça, oui.
Là, on a le bon Johnson européen.
Et que les Britanniques gardent le leur.
Attention, méfiez-vous, Alain Duhamel. On reparle un peu du changement de gouvernement avec un loupé hier.
Alors, Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, puisqu'on dit ancien désormais, il a été remplacé par Pap Ndiaye depuis cet après-midi.
École de la République, vous êtes un historien reconnu, vous le savez fort bien, l'école de la République est la colonne vertébrale de la République. Historiquement, la Troisième République s'est consolidée en même temps que son école se consolidait.
J'ai une pensée pour un collègue historien, Samuel Paty, dont l'exemple et dont la mémoire sont gravés dans nos esprits et dans nos cœurs. Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine dont l'école est le pilier.
Anticipant l'annonce du nouveau gouvernement, Jean-Michel Blanquer a voulu mettre les petits plats dans les grands pour la passation de pouvoir. Il a fait venir une chorale d'adolescents pour chanter pour l'occasion. C'était hier, sauf que les jeunes chanteurs et 8 adultes accompagnateurs, comme nous tous, personne n'avait la date précise de l'annonce du gouvernement. Ils sont donc venus hier matin en urgence de Poitiers pour rien, enfin pour rien, pour 3000 euros, coût de l'opération quand même, et pour chanter pour le personnel du ministère. Ils ont chanté pour les équipes du ministère, puisque même Jean-Michel Blanquer n'était pas là en campagne pour les législatives dans le Loiret. Pas bien grave, la chorale d'adolescents de 11 à 15 ans a l'air quand même d'avoir passé une bonne journée.
En apprenant que la passation ne se faisait pas, on était tous déçus. Hein.
Bah, je me suis imaginé prendre une photo avec le ministre et montrer à toute ma classe. Hein.
Une légère déception, mais on a quand même chanté, il y avait du public, ils étaient contents, donc c'est le principal.
On a fait la visite complète, on a vu les salles de réunion, la bibliothèque, le bureau du ministre aussi.
Ah, il était beau, oui. Il est très beau. Hein.
On a eu des chouquettes,
des
très bons cookies aussi.
Du jus d'orange et c'était plein des boissons et tout, c'était très bon.
On a été un peu déçus de ne pas le voir en vrai, mais dans tous les cas, il est quand même dans nos cœurs parce que...
Merci.
Monsieur Blanquer.
Jean-Michel Blanquer qui restera dans le cœur de ce cœur d'enfants rentrés chez eux dans la région de Poitiers. Alors, pour boucler la boucle, juste avant le début de l'émission, nous avons découvert une belle chute à cette histoire. Ce soir, il y a bien eu une chorale. Ce ne sont pas les mêmes enfants, pas la même chorale, désolé pour les poids de vin, mais il y a bien eu une chorale.
C'est quand même bizarre de convoquer une chorale sans connaître la date du remaniement.
En tout cas, l'expérience a prouvé que les chorales avaient un effet très positif sur l'éducation des enfants.
Ah, d'accord.
Donc c'est déjà ça.
C'est déjà ça.
Vous avez chanté dans une chorale, Alain ?
Non, bon, enfin, ma femme en a dirigé tellement que c'est comme si je l'avais fait.
Merci beaucoup. Merci, cher Alain Duhamel, d'avoir accepté ce soir notre invitation. On vous retrouve sur BFM TV tous les jours, du lundi au jeudi. À très bientôt, j'espère. Merci, François de Closet, la parenthèse boomer. Ça sort mercredi prochain chez Fayard, mais c'est pour réconcilier les générations. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant... Oh, quatre aventuriers complètement dingues, menés par Jonathan Lambert, Jonathan Cohen, mais aussi Jonathan Lambert, Gérard Darmon et Géraldine Gatt-Nakache. À tout de suite pour le dîner de C'est à vous.